Y a un trou dans la photo de classe, un vilain trou de cigarette, mégot méchamment écrasé par le tampon de la sous-préfète sur un visage terrorisé. Elle s'appelle peut-être Sherazen, ou alors c'est Ibrahima, sûrement pas Marie Ségolène, encore moins le petit Nicolas. Y a un trou dans la photo de classe. Y en a qui aimeraient qu'on s'habitue. Y a un trou dans la photo de classe. Y a un trou. Il faudrait peut-être qu'on se soit tu. J'en vois qu'il imagine déjà en pseudo-primo délinquant, comme on nous en colle dans le journal. Un jeune, alarmé jusqu'aux dents. Sauf que celui-là, depuis tout petit, ses parents lui ont rabâché qu'il y a intérêt à se faire tout petit. Vivons peureux, vivons cachés. Il y a un trou dans la photo de classe.
Il y a un trou.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission Livre en lutte, aujourd'hui on rediffuse une émission sur le mouvement Harlem Renaissance. Et tout d'abord, je voulais signaler que notre ami Nicolas Grillenzoni vient d'obtenir le prix du meilleur roman. Du meilleur roman auto-édité dans le cadre du Festival des littératures urbaines. Et voilà, donc bravo à lui. On l'avait présenté en mai 2025, donc le podcast est encore disponible. On l'avait aussi présenté à Publico, où il est en vente. Alors pour rappel, c'est une sorte de fable communarde qui se déroule pendant les 72 jours des 150 ans, mais donc en 2021. Donc Nicolas repart en tournée, il est très actif sur les réseaux, donc vous pourrez trouver ses nouvelles dates. Et puis bonne lecture à tous donc, et bonne émission. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième émission Livre en lutte sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, on va aborder le mouvement Harlem Renaissance, un mouvement afro-américain d'émancipation, d'intégration, ça on verra après. Donc à New York, commencé à peu près vers les années 1924 jusque dans les années 30. Je vais commencer par vous faire un petit topo donc, sur ce mouvement. Donc, sur quel bouquin on va partir? On va surtout parler de deux personnes. Donc, une femme, Zora Neale Hurston, écrivaine, sociologue, un poète, Langston Hughes. Donc, Zora Neale Hurston, on part d'un bouquin de chez Nada. C'est un roman graphique qui s'appelle Fire. Alors, c'est un roman graphique, mais pas que. On a aussi 33 pages de notes qui documentent chaque page, chaque événement, chaque personnage qu'on peut rencontrer. Excellent bouquin. Feu Harlem, ça c'est un bouquin qui sort chez Ypsilon. Ypsilon, c'est une édition qui est assez passionnée de typographie, qui fait des beaux bouquins. Ça c'est un bouquin, c'est la réédition en français d'un magazine trimestriel qui est né en 26. Donc il s'appelle Feu Harlem. Je vais essayer d'être clair. Le titre original de ce magazine, c'est Fire, qui est utilisé donc pour le bouquin de sur Zora Neale Hurston. Donc Feu Harlem. On va aussi partir sur un bouquin d'Angela Davis qui s'appelle Blues et féminisme noir, qui est sorti en 98. C'est un bouquin, si on aime le blues, si on croit un peu connaître, franchement, on découvre plein de choses. Il y a deux versions. La première version était venue avec un CD avec pas mal de chansons de Blues Woman, Ma Rainey, Bessie Smith, et elle parle aussi de Billie Holiday. Il y a une deuxième version dite poche, sans le CD, ce serait un petit peu dommage de s'en passer. Alors, donc, le mouvement Harlem Renaissance, un petit contexte. Auparavant, il y avait déjà ce qu'on appelait la Petite Renaissance. Ça, c'était un courant d'auteurs blancs. Bon, ils avaient bien constaté que les États-Unis, ça ressemblait un petit peu à un désert culturel. Et ils voulaient aussi se constituer une identité propre par rapport à l'Europe. À l'époque, aussi, déjà, certains auteurs blancs ou noirs trouvaient que les blancs manquaient d'âme, parce que trop asservis par les machines, parce que trop loin de la nature, trop urbains, d'où un certain intérêt pour un homme noir qui aurait été plus près de ses racines africaines. Donc, une intelligentsia blanche libérale qui s'intéresse en tout cas à ce mouvement. Dans des magazines comme Vanity Fair, on pouvait lire des articles d'un type très important dans ce mouvement, qui était blanc, Karl Van Vechten, qui parlait souvent du blues. Il faudrait aussi rappeler que les spectacles des artistes noirs dans les clubs étaient surtout vus par un public blanc. Donc Harlem, à l'époque surnommée la Mecque noire ou la Babylone des temps modernes, à l'époque, c'est pas le Harlem des années 70, c'est au contraire un quartier très middle class, voire bourgeois. Il s'était passé aussi un truc, c'est que dans les années 30, le quartier de Harlem va prendre le relais de Chicago pour le jazz. Donc un courant musical inventé dans le sud. Mais Harlem a attiré tous les plus grands musiciens, les Duke Ellington, les Louis Armstrong, Count Basie, Bill Holiday, etc. On peut aussi rappeler que le premier journal afro-américain était paru à New York en 1827. Il avait duré que deux ans. Il s'appelait le Freedom Journal. Donc, la Renaissance, donc, qui était destinée à mettre en valeur les artistes et la culture noire américaine, qui disposait de plusieurs journaux. Il y avait The Crisis, il y avait The Opportunity, à Baltimore, il y avait le Baltimore Afro-American. Avec, dans ce mouvement Harlem Renaissance, beaucoup de mouvements très différents. Certains très conservateurs et qui voulaient passer par les urnes, et puis d'autres mouvements plus activistes, et pour dire la vérité, en fait, ils ne se supportaient pas. Donc, on va commencer. Pourquoi j'ai retenu les deux auteurs, une femme et un homme, Zora Neale Hurston et Langston Hughes? Parce que 100 ans après, il apparaît bien que c'est eux qui étaient les plus pertinents pour ce qui est du combat des droits civiques et pour ce qui est du Black Pride, etc. Donc, on va commencer par un petit topo sur Zora Neale Hurston. Donc, la BD Fire chez Nada, franchement, assez excellente. Donc, je rappelle qu'il y a aussi 33 notes de page. Donc Zora Neale Hurston, sociologue, anthropologue, folkloriste, auteur de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre et d'études sociologiques, notamment sur les comptines ou sur le voodoo. Donc on va l'introduire avec une première chanson. Là, je vous passe Coco Robichaud, il faisait du blues cajun. Et on nous l'avait présenté quand il était passé en France en concert comme un prêtre hoodoo. Alors, hoodoo avec un H, c'est un petit peu différent. Autant le voodoo, c'est des pratiques très compliquées avec on cite les dieux africains, etc. Autant le hoodoo avec un H, bon, c'est plus une somme de pratiques superstitieuses. Donc, je vais vous passer une chanson, donc Coco Robichaud. Après, je vous parlerai du concert. C'était assez étonnant. C'est parti. Middle of the swamp tonight, yeah.
in the middle of this morning. I could make better time running on solid ground. Solid ground. I got to keep on.
C'était Coco Robichaud, R-O-B-I-C-H-E-A-U-X. Son album, pour moi le meilleur, donc Louisiana Medicine Man, Alors effectivement, en concert, d'une part, il avait un gros collier plein d'amulettes autour du cou en tant que prêtre voodoo. Et puis, alors au pied du micro, il avait une bouteille de Tabasco et pas une petite. Et il a commencé le concert, avant le concert, par prendre 2-3 gorgées. Il s'est gargarisé avec, il a avalé ça. Et après, il nous a fait un « bonjour ». On aurait dit que quelqu'un griffait un tableau noir. Impressionnant. Donc, Zora Neale Hurston, qui naît en Alabama en 1891, et puis qui déménage à Eatonville, en Floride. Eatonville, qui était une petite ville entièrement noire, peuplée entièrement d'Afro-Américains. Son père, d'ailleurs, avait fait fonction de maire. Il faut expliquer qu'il y avait plusieurs petites villes comme ça, notamment en Floride, qui marchait plutôt bien. Généralement, il n'y avait pas besoin de police ni de prison. Quand il y avait un souci, il s'expliquait avec un gars et puis le gars partait. Des villes très, très paisibles. Et ce qui est drôle, c'est que les Blancs et les Noirs du Nord ne savaient pas que ça existait. Et surtout, quand on leur en parlait, ils ne voulaient même pas y croire. Alors quand Zora Neale Hurston a fait un roman qui se passe dans une de ces villes, il y en a qui vont lui reprocher d'avoir cherché à éluder tout conflit racial. Mais en fait, elle est partie de la réalité. Alors, parmi ces villes entièrement noires, on peut citer Rosewood, parce qu'il y a eu un massacre dans cette ville en 1923, où la quasi-totalité des Afro-Américains de la ville ont été massacrés, pour ceux qui n'ont pas réussi à s'enfuir. La ville a été complètement détruite, elle a été déclarée ville fantôme par les autorités. Il y aurait eu peut-être 150 morts, dont 2 blancs, donc le reste des Afro-Américains. L'élément déclencheur du massacre fut le mensonge d'une femme blanche qui était accusée d'adultère, qui avait été un petit peu frappée aussi, et qui a prétendu s'être fait violer par un homme noir. Donc, par la suite, on va découvrir qu'elle avait menti et qu'elle le trompait bien avec un homme blanc, qui était d'ailleurs connu pour des violences conjugales. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique de mensonge qui déclenchait des lynchages. C'était le prétexte le plus connu pour des lynchages. A signalé, donc en 2014, Eric Bibb a rendu hommage à cette ville, Rosewood, avec une chanson qui porte le même nom, dans son album Blues People. Voilà, un petit peu lente, moi j'ai préféré pas la mettre. Alors, Zora Neale Hurston, on va parler de son petit caractère. Un sacré caractère, en fait. Bon, elle s'est fâchée avec tout le monde. Avec ses amis, ses éditeurs, ses mécènes, ses maris, ses bonhommes. En même temps, c'était une femme extrêmement attachante, très séduisante, très charismatique. Quand elle arrivait dans une soirée, il n'y en avait plus que pour elle, très rapidement. Donc, elle aimait bien porter des tenues extravagantes. Donc, ça allait de la tenue d'indien séminole traditionnel jusqu'à la tenue de ski norvégienne. Enfin, c'est ainsi que l'avait décrit un des témoins. Pour ce qui est des tenues, dans la BD, on la voit, et c'est vraiment la réalité, avec un flingue qu'elle portait dans un holster par-dessus sa robe, pendant qu'elle voyageait dans le sud pour ses études de sociologue. Parce qu'avec sa première bourse, elle a commencé par s'acheter un flingue et une bagnole pour être un peu plus autonome. Et cette femme armée d'un flingue dans le sud, c'est vrai qu'on a un peu de mal à y croire, et pourtant c'était ça. Donc elle détestait les normes, tout ce qui est organisation pyramidale, donc elle avait horreur de l'adhésion de ses amis aux idées socialistes ou parfois communistes, donc très anticonformiste, même dans ses propos sur les luttes raciales. Elle a pu parfois encourager à voter localement pour un candidat républicain, parce qu'elle trouvait le candidat démocrate trop raciste. Il y a aussi une phrase que je vais vous lire, qu'elle aurait donné en interview, où elle dit « Les lois Jim Crow ont eu du bon dans la mesure où un noir savait à quoi s'en tenir dans le Sud, alors que dans le Nord, le racisme est imprévisible et arbitraire. » Alors d'une part, on n'est pas sûr que ça ait été bien transcrit par les journalistes, et puis il faut dire que les pires actes de racisme qu'elle ait connus, c'était bien dans le Nord. Elle s'était aussi opposée à une intégration des Afro-Américains dans les écoles, dans les facs. parce qu'elle était contre une intégration forcée, aussi parce que dans une fac non ségrégée, elle pensait que les étudiants noirs plus pauvres auraient eu des complexes, et puis que cette école aurait produit des noirs moins diplômés destinés à des emplois subalternes. Voilà, que dire de plus? Oui, une petite biographie. Donc, elle quitte la maison à 13 ans, après la mort de sa mère, parce que son père se remet avec une femme qu'elle ne supporte pas. Alors là, on pourrait préciser qu'elle a failli, elle s'est battue avec sa belle-mère, elle a failli la tuer. Hein. Après, il y a ce qu'elle appelle ses 10 années perdues. Donc, il y a eu un mariage, on pense qu'elle a peut-être été battue dans ce mariage. Et puis elle commence à faire du théâtre. Là, elle apprécie ce milieu parce qu'elle découvre que c'est un milieu où les gens ont l'esprit beaucoup plus ouvert. Donc plus tard, du coup, elle fera des pièces de théâtre. Et puis, elle veut absolument reprendre ses études. Donc, elle prend des cours du soir et elle fait une prépa pour aller à la fac. Sauf qu'elle a déjà 26 ans. Donc, en théorie, ça lui était impossible. Pas grave, elle a prétendu en avoir 16. Et c'est une constante. Après, tout le reste de sa vie, elle trichera sur son âge, parce qu'elle faisait toujours beaucoup plus jeune que son âge. Donc elle étudie dans différentes facs. Ses cours du soir, c'est vers 17-18. Et puis en 24, première publication. Ça, c'est dans le journal Opportunity, donc un journal new-yorkais. Elle aura un prix dans ce journal en 24 et Langston News un autre. Et l'éditeur lui propose de venir à New York. Il lui dit que c'est idéal pour les artistes noirs. Après, dans la BD, on voit les personnages dire à un moment que ce journal est devenu trop bourgeois. Et cette tendance trop conformiste a toujours braqué Hurston. Alors en 26, elle cofonde Fire. Donc c'était un magazine destiné à être trimestriel. Pas de bol, en fait, il y a un incendie qui va brûler les bureaux et une bonne partie des stocks. Et c'est de ce magazine dont je vais vous parler tout à l'heure, puisqu'il a été réédité en français assez récemment. Donc quand elles confondent Fire, donc ils sont une petite bande, ils ont tous moins de 30 ans. Enfin, en théorie, parce qu'à l'époque, elle a déjà 35 ans, mais même ses amis ignoraient son véritable âge. Donc en 28, enfin diplômée de la fac, donc ça a pris 10 ans. Dans la BD, on la voit qui est aidée par des mécènes. Bon, c'est un système qui existe beaucoup aux États-Unis. Donc deux femmes, Fanny Hurst et Madame Mason. Madame Mason qui sera aussi la mécène de Langston Hughes. Après ses études, donc, elle part étudier le vaudou aux États-Unis. Où elle rencontre, elle voyage beaucoup avec Hughes, avec laquelle elle était très copine. Mais dès 31, elle va se fâcher avec lui à cause des conditions de la création d'une pièce de théâtre. Et ça, c'est assez terrible parce qu'on sait bien qu'ils se sont beaucoup manqués. Après, en 36, elle parcourt le Sud avec Alan Lomax. Donc Alan Lomax, qui était payé par la Bibliothèque du Congrès pour faire des enregistrements musicaux de petites communautés musicale, comme avant lui son père. Donc je vous passerai un petit morceau d'Alan Lomax tout à l'heure. Donc bien copine avec Alan Lomax. Alan Lomax qui était copain avec Woody Guthrie, Pete Seeger, qui a connu plein de monde, qui a découvert des talents dans le blues. Il a notamment découvert Lead Belly en prison, puisque Lead Belly était en prison pour meurtre à cette époque. Il va l'enregistrer en prison, après Lead Belly fera sa carrière. Donc, après 36-38, là, elle va étudier le voodoo en Jamaïque et en Haïti. Déjà, aux États-Unis, elle avait été initiée. Hein, c'était pas une sociologue qui faisait les choses de loin. Donc, elle en fera un bouquin qui aura pas mal de succès sur le voodoo, et notamment aussi en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il est paru avec un titre qui mettait le mot voodoo, donc ça a été plus vendeur. Après, elle sort une autobiographie, elle voyage encore au Honduras. Et en 49, il y a un truc assez terrible qui arrive, c'est un journal afro-américain, le Baltimore Afro-American, qui monte une cabale contre elle, un truc vraiment dégueulasse, hein, qu'il accuse de pédophilie, alors qu'elle avait été blanchie par des tribunaux, etc. Et là, non seulement elle n'est pas soutenue par ses amis du Harlem Renaissance, mais personne même ne prend ses nouvelles. Donc elle s'est sentie complètement abandonnée, même trahie. Elle aurait même pensé au suicide à cette époque. Et donc, elle repart en Floride, où elle va vivre les 10 dernières années de sa vie. Donc, elle continuera à faire des piges, à être enseignante, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, puisque l'année où elle meurt, à 69 ans, elle est encore professeure remplaçante. Donc, que dire de plus ? Donc, elle était souvent mal vue par les personnes les plus conservatrices dans le mouvement Harlem Renaissance, notamment pour un de ses premiers romans, le titre « Met leurs yeux dardés sur Dieu », parce qu'elle l'écrit dans un langage du Sud très très idiomatique, et puis elle intègre des personnages de Mac, de prostituées, d'illettrés, de gangsters. Et dans la BD, on croise à un moment Casper Holstein. Mais c'est vrai que bon, c'était un mafieux de Harlem qui a beaucoup aidé plein d'artistes noirs à l'époque. Je pourrais rappeler aussi que le Cotton Club a été fondé par Ovne Madden, qui était un gangster aussi. Donc, bon, c'était la réalité. Donc, c'est un peu fâché, forcément, avec ses mécènes. Mais c'est vrai que ses mécènes entretenaient avec elle, comme avec Hughes, une relation un peu dominant-dominée. Il fallait bien faire quelques concessions pour être publié. Et après, on leur a reproché, justement, on a pu remettre en cause leur intégrité intellectuelle à cause de ses soutiens. Et peut-être, d'après ce que dit Anna Locke, que ces soutiens, et puis toutes les luttes internes, ont sabordé le mouvement Harlem Renaissance de l'intérieur. Dernière chose, donc, elle a dit, ou elle a écrit, « Le blues est la plus grande forme d'art que notre pays ait jamais produite ». Et cet amour du blues, c'est vraiment, pour moi, la ligne de démarcation entre les plus conservateurs et ceux qui reconnaissaient la valeur de la culture afro-américaine. Et je peux te dire que pour tout ce qui était intellectuel, ils étaient beaucoup plus nombreux du côté de la barrière des conservateurs que des autres. Donc, est-ce que je vous passe un petit morceau de Alan Lomax ? Alan Lomax, alors, donc j'ai un peu expliqué son parcours. Là, j'ai un enregistrement qui a été fait en 1947 dans un pénitencier pour noirs du Mississippi. Donc, il n'y a pas d'instrument de musique. Il y a eu un seul pressage en 1957, jamais importé. Eh ben, moi, j'ai le vinyle, donc on va se faire plaisir et on va écouter ça.
Well, it takes a rock and a grab, and grab, to make a solid road. To take a good looking one, baby. To make a good looking one. Well, to make a good looking one, baby. To make a good looking one, Lord, it's true. To take a good looking one, mama. To make a good looking one. Well,
Voilà, donc l'album s'appelle Negro Prison Songs, mais je pense, sauf erreur, qu'on ne peut pas le trouver. Peut-être des équivalents, je ne sais pas. Donc on va maintenant aborder Langston Hughes, donc poète, militant des droits civiques, grand voyageur, né en 1902. Alors là, c'est pareil, c'est après sa mort en 67 qu'il devient le poète afro-américain le plus officiel. C'était pas le cas à l'époque du Harlem Renaissance, hein. Donc, il rencontre Hurston à Mobile, dans l'Alabama, vers 27 ou 28. À l'époque, très copains, ils font leur trajet ensemble entre le Sud et New York, parce que tous les deux avaient des petits boulots alimentaires, ils étaient payés par des facs ou par des chercheurs. En des boulots qui consistaient par exemple à répertorier le nombre de commerces tenus par des Noirs ou des églises noires. Apparemment, c'était assez harassant, et on voit un peu le degré de pertinence de ses études à l'époque. Donc, il a eu. On se demande si c'est. Je ne sais pas si c'est Locke ou Langston qui présente la mécène Mason à Zora. Bon, donc il se fâche assez vite. Langston Hughes, qui a été publié dans pas mal de magazines, hein, alors, et Opportunity, et Crisis, et Fire. Alors lui, c'est pareil, il fait partie des rares qui apprécient la musique noire. Et il a déclaré « Le blues et les spirituals sont d'immenses cadeaux que les nègres ont fait à la musique américaine. » Il a même écrit un de ses recueils de poèmes avec dans les marges des indications pour les musiciens ou des mélodies. Ça s'appelle « Ask Your Mama 12 Moods for Jazz ». Je vous laisse fouiller sur le tube, c'est pas très radio télégénique, c'est souvent des enregistrements live. Et 20 ans encore après le Harlem Renaissance, Langston a toujours utilisé et le Sud, et le folklore, et le blues, et l'exotisme. Donc on revient, à 17 ans, en fait, il est invité par son père à Mexico. Ça, c'est intéressant parce que c'est là-bas qu'il a vraiment pris conscience des discriminations. Son père vivait à Mexico. Il avait traversé la frontière, son père donc était noir, pour pouvoir travailler et faire des affaires. Il avait très bien réussi, il était apparemment assez riche. Donc il avait quitté les États-Unis quand Hughes avait 6 ans. Donc il le retrouve très longtemps après. Et là, il découvre que son père est très raciste, contre les Noirs, contre les pauvres. Contre les Noirs parce que son père comprenait pas que les Afro-Américains restent aux États-Unis pour des destins d'employés de maison, il y a servir les Blancs. Et en même temps, on est en 19, c'est la révolution russe, et Langston Hughes est assez sensible à ses idéaux. Pour autant, bon, il a jamais été vraiment communiste, mais on va souvent le lui reprocher. Et là, je dois parler de son voyage en Russie, parce qu'en 29, Moscou annonce vouloir faire un grand film sur le problème noir aux États-Unis. Et dans ce cadre, donc, ils invitent 22 Afro-Américains, ils leur donnent un budget, etc. Et donc, Hughes en profite et part avec eux. Donc là-bas, première chose, il découvre une espèce de ségrégation à l'envers, parce que quand il est à Moscou, on lui donne toujours les meilleures places dans les spectacles, etc. Donc ça, c'est une petite surprise. Et puis, ce projet de film va tomber à l'eau, et donc les gars rentrent aux États-Unis, sauf Langston Hughes, qui en profite pour voyager. Donc il va voyager seul au Turkménistan, en Ouzbékistan, dans des provinces reculées, et là il est frappé par la bonne volonté du régime pour émanciper, pour libérer ces peuples, entre guillemets, de couleur, hein, c'est comme ça qu'on les voyait. Et pour les sortir du semi-esclavagisme dans lequel il vivait depuis des siècles. Donc après, il va au Pakistan, il prend le Transsibérien, il traverse tout le pays, puis la Corée, il arrive au Japon. Son rêve, c'était de voir la Chine. Bon, il passe à Shanghai, il revient au Japon, et puis finalement, il revient en bateau aux USA. Ça a duré un an de voyage à faire des rencontres. Donc les voyages, il en a fait pas mal. Il ira au Mexique, là, il va rencontrer Diego Rivera. Il sera aussi correspondant de guerre en Espagne. Alors ça, c'est assez sympa. Donc là-bas, en Espagne, il va rencontrer Neruda, Hemingway, André Malraux, etc. Et il va rencontrer des brigadistes volontaires afro-américains dans une brigade qui s'appelait la brigade Abraham Lincoln. Donc, entre 2000 et 5000 personnes dans cette brigade. Ça dépend des sources. Donc au moins 60% étaient des membres des jeunes communistes ou du parti communiste américain, mais il y avait aussi des wobblies, des socialos, des anarchistes et des gens sans étiquette. Et cette brigade a été dirigée brièvement par un afro-américain qui s'appelait Oliver Law, L-A-W. Donc ça aurait été la première brigade, la première régiment américain avec des noirs et des blancs commandé par un noir. Bon, le type est mort au combat très rapidement, en 37. Donc, Langston Hughes, je vais peut-être vous lire un petit poème tiré du bouquin du magazine Feu Fire. Donc, on va voir si ça donne quelque chose. Donc là, le poème s'appelle « Wayward Avenue ». Crépuscule pas clair sur Wayward Avenue, lumière dans les rats à poissons, lumière dans les salles de billard, un wagon de marchandises qu'un train a oublié au milieu de la rue, un piano mécanique, un Victrola, 942, son numéro, un garçon qui traîne au carrefour, une fille qui passe, la peau poudrée de mauve, un rire soudain comme un tambour tendu, un rire soudain, ni vérité ni mensonge, un rire qui durcit le soir crépuscule pas clair. Un rire qui fait trembler les lumières dans les rats à poissons, qui fait rouler les boules blanches dans les salles de billard, et qui laisse inchangé le wagon de marchandises qu'un train a oublié. Donc, Langston Hughes a souvent évolué dans son style, et moi je le trouve toujours très intéressant. Il a peu vieilli, je trouve. Moi, je trouve ça très bien. Après, il faudrait parler de son personnage Simple. Donc Simple, c'était une rubrique qu'il tenait dans le New York Post. Chaque semaine, C'est un personnage noir qui est au comptoir et qui échange des propos avec un type qui l'interroge. Donc ça a eu beaucoup de succès. C'est devenu, ça a créé la figure d'un noir de Harlem dont tout le monde aurait voulu être le copain. C'est une figure d'un type à la fois naïf et en même temps naïf et très franc et qui sort des vérités. Donc je vais pour vous donner une idée. Je vais lire des extraits d'une de ces rubriques. Donc, il raconte... si je voulais vraiment aller à l'église, c'est ce que dit Simple, qui veut dire vraiment simplet. Hein. Je voudrais surtout pas aller dans une église pour blanc. Le type lui dit pourquoi. Il dit déjà, c'est pas des chrétiens sincères, puisqu'ils m'interdisent d'entrer à l'église. Et puis, on s'y ennuie trop. Et pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, les pasteurs blancs lisent leurs sermons. Ils vont même jusqu'à lire leurs prières. Si on n'a pas ces prières au fond du cœur, si on ne peut pas les offrir à Dieu sans notes et sans papier, quelle sorte de prière est-ce que ça peut bien être? Et puis je n'aime pas les vieux cantiques traînards, ni les hymnes, ni leurs arrangements. J'aime le swing et les alléluia rythmés, et les chants d'évangile et les tambourins. Mais j'ai jamais vu de tambourin dans une église pour blanc. Donc, il continue et à un moment, il dit « J'ai l'impression que le clériste ne se plairait pas dans une église pour blanc. » Et le gars lui répond « Mais de toute façon, tu ne vas pas souvent à l'église. » Et il dit, c'est la fin de l'espèce de texte, « Seulement quand ma femme m'y entraîne. Ou si Clara Ward, les Gay Sisters ou les Swan Silverstone y chantent. Ah ouais, j'irai à l'église pour les entendre, toutes les vedettes de l'évangile. » Voilà, c'est le genre d'article qu'il y avait dans Simple. Donc après, c'est sorti aussi en recueil. Voilà, Langston News. Est-ce que je vous passe une autre petite musique avant de parler de Feu Harlem? Ouais, j'avais dit que je vous passerai... Ouais. Peut-être tout à l'heure, ouais. Donc, je vous parlais de Feu Harlem, donc le magazine. Donc, comme j'ai déjà expliqué, en français c'est Feu, deux points d'exclamation, Harlem. Donc, c'est la réédition en français du magazine Fire en 1926, donc créé par Hurston. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On y trouve une pièce, d'abord une nouvelle de Wallace Thurman. Et là, pas de bol, parce que c'est une pièce qui met en scène une prostituée. C'est le sixième mot de la nouvelle, c'est prostituée. Donc ça n'a pas plu du tout aux conservateurs. Après, on a une pièce de Hurston. Et là, c'est pareil, c'est écrit dans une langue très argotique. Et même l'accent des gens du Sud est transcrit. Donc, très mal reçu. On a dans ce bouquin donc sept poèmes, notamment Canty Cullen ou Hughes, des dessins. On a encore des nouvelles, dont une de Zora Neale Hurston, une de Richard Bruce. Ça, c'est pas mal parce que c'est écrit sans paragraphe, avec pour seule ponctuation trois petits points. Ça rappelle quelqu'un. Et puis aussi, il y a un texte que j'aime beaucoup, écrit par Arthur Offosset, qui n'a pas laissé de livre derrière lui, c'était juste un éditorialiste, et donc c'est l'occasion de trouver un texte de lui. Et en fait, c'est une charge contre l'apparition de l'intelligentsia. C'est très féroce, c'est très drôle, et moi j'y vois une critique des intellos de la bien-pensance, toujours un petit peu à côté de la plaque, avec toujours un moralisme, toujours à l'œuvre, entre de grandes idées. Donc, après, je vais vous parler du bouquin d'Angela Davis. Et pour l'introduire, je vais vous passer une chanson de Ma Rainey. C'est la chanson où elle exprime qu'elle est lesbienne, en fait. Donc, on s'écoute ça.
To my surprise, the gal I'm with was gone. she took it. I want the whole world to know. This day I do it. Ain't nobody caught me. You got to prove it on me. Went out last night with a crowd of my friends. There must be women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie. Make the wind blow all the while. But to say I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me.
Voilà, c'était Ma Rainey. Donc c'est Prove It On Me Blue, ça date de 28. Donc elle explique qu'elle est lesbienne dans la chanson, elle dit qu'elle porte col et cravate, qu'elle parle aux femmes comme un homme, qu'elle l'a fait mais que vous ne la pincerez jamais en train de le faire. Et moi j'ai retrouvé la fiche publicitaire de l'époque, un petit truc carré. Donc on voit Ma Rainey, elle n'a pas que le col et la cravate, elle a aussi un gilet d'homme, elle a une veste d'homme, un chapeau d'homme. Donc elle est sur un trottoir et elle aborde deux femmes. Et pour qu'on comprenne bien, donc derrière en arrière-plan il y a un policier avec un regard réprobateur. Donc ce qui est drôle, c'est que l'affichette publicitaire était encore plus explicite. Bon, en fait tout le monde savait déjà que Ma Rainey préférait les filles, bon, et c'était pas la seule. Il y avait dans les chanteuses de blues, il y avait Alberta Hunter, il y avait Mumps Mabley, Bessie Smith était bisexuelle, et c'était pas un souci. Donc ça, c'est une chanson de 28, et déjà en 26, elle avait sorti Sissy Blues. Alors Sissy Blues, c'est une chanson dans laquelle une femme surprend son mari, enfin son bonhomme, dans les bras d'un autre homme. Donc Sissy, ça veut dire, on va dire, tapette. Mais elle se moque pas d'eux, c'est pas du tout le sujet. Elle est là, c'est la complainte d'une femme délaissée. Donc dans Blues et féminisme noir d'Angela Davis, on retrouve toutes ces notions là. Et il y a le problème, ces chansons qui parlent beaucoup de sexualité, ça a beaucoup gêné les conservateurs. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Donc par exemple, ce qu'explique une autre sociologue citée par Angela Davis, c'est que le blues a introduit de nouveaux modèles pour les femmes noires, plus affirmées, plus sexuellement conscientes, plus indépendantes, plus réalistes, plus vivantes. Moi, je dirais que toutes les chansons de Bessie Smith et Ma Rainey, en fait, parlent des femmes. Leur demande de se débarrasser des bonhommes qui étaient feignants, qui travaillaient pas ou qui étaient infidèles, c'est vraiment des chansons qui sont là pour que les femmes se libèrent d'une domination masculine ou d'un patriarcat. Alors sur 252 chansons de ces deux chanteuses, il y en a que 4 qui parlent du mariage comme d'une chose qui va de soi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette sexualité libre, c'était très nouveau, puisqu'avant la guerre civile, les esclaves étaient mariés de force, ils n'avaient pas le choix de leur mari, parfois on pouvait leur retirer les enfants, il y avait quand même des fermes d'élevage des esclaves, et ça c'est des notions qui échappaient complètement aux bourgeois noirs du nord des États-Unis. Donc ça c'est une chose absolument à comprendre pour comprendre à quel point les critiques des Noirs américains du Nord ont pu être assez terribles. Donc ça, je vais vous faire un petit topo dessus. Et pour l'introduire, je vais quand même vous passer une petite chanson de Bessie Smith. Alors, elle n'est pas de Bessie Smith, c'est pas elle qui l'a écrite, mais dans la chanson, alors là, elle parle de ses soirées du samedi soir à Harlem. Dans la chanson, il y a un peu tout. Elle parle des highbrows, des intellos qui traînent dans Harlem. Elle commande un pied de porc et de la bière. Elle veut danser le chim-cham-chimie, c'est-à-dire une danse de claquettes qui était souvent faite à la fin des concerts par tous les musiciens et un peu repris par le public. À la fin, elle demande un reefer, un R2EFER, c'est-à-dire un joint, et puis et un litre de gin. Donc, on est un petit peu bien dans l'ambiance de Harlem, donc on va s'écouter ça. C'était Bessie Smith. Donc on va venir aux critiques des Noirs américains, Noirs du Nord. Donc on va commencer assez fort. Donc il y avait le sociologue noir américain Franklin Frazier, né dans le Nord, fils d'un directeur d'agence bancaire, et qui était quelqu'un de reconnu hein, en tant que sociologue, qui avait écrit que la survivance de l'Afrique dans les pratiques culturelles noires est inexistante. Bon, ça m'a l'air un petit peu faux, un petit peu complètement faux. L'idée, en fait, pour ces des bourgeois noirs américains, c'est de se démarquer justement de cette culture du Sud, jusqu'à éviter les recettes de cuisine du Sud, genre poulet frit ou pain de maïs. Évidemment, il y a des racines africaines dans la structure du blues, dans la façon de d'y mettre de l'ironie, de reprendre le même thème dans plusieurs chansons en disant autre chose, encore typique d'une tradition orale, notamment aussi d'Afrique de l'Ouest. Le banjo a une origine africaine. Les premiers banjos, en fait, avaient quatre cordes et puis ils étaient un petit peu semi-ronds au niveau de la caisse de résonance. C'est ce qu'on appelle un gourde banjo, gourde comme une gourde, hein, c'est le même nom en français. Donc c'est l'instrument africain qu'on appelle Ouékontine ou Akonting, Ouékontine ou Banya, ça dépend. Il y avait les danses, il y a plein de danses différentes, la Djaba ou Patting Djaba, il y avait même la Shuffle Dance qu'on appelait Jim Crow Dance, inventée par les esclaves, a encore des origines africaines. Et puis il y avait le Voodoo, je crois que j'en ai un petit peu parlé. Le Voodoo, il y a pas mal de chansons de Bessie Smith qui en parlent. Moi j'en connais quatre, et il y en a une, Lady Luck Blues, où sa meilleure copine lui pique son mari, et donc elle prend la photo de sa copine, elle la retourne et elle la saupoudre de Gopher Dust. La Gopher Dust, c'est de la poudre, enfin c'est de la terre de sépulture, si possible d'une sépulture d'enfant. Donc il y a une phrase pas mal aussi qui est dans le bouquin d'Angela Davis, écrite par Mary Church Terrell, qui est une femme militante afro-américaine très importante, qui a cofondé le NAACP ou d'autres associations pour les Noirs femmes, et qui a écrit, attention, « Notre survie exige que les femmes noires éduquées aillent parmi les plus basses villes et illettrées d'entre nous, auxquelles elles sont rattachées par les liens de la race et du sexe pour les reconquérir. » Donc, encore une fois, elle était gênée par toutes ces histoires qui chantaient les femmes du blues, qui parlaient de sexe, parce qu'elle ne se souvenait pas qu'à l'époque de l'esclavage, il y avait pas cette même liberté. Dans les années 20 et 30, la sexualité, c'est un des rares domaines où les masses afro-américaines peuvent exercer enfin leur autonomie, c'est-à-dire que ça permet de distinguer leur statut actuel du statut qu'ils avaient à l'époque des esclaves. Donc, très peu de considération de la part des conservateurs pour le jazz ou le blues. En fait, ils attendaient l'apparition d'un artiste noir qui aurait maîtrisé la composition musicale classique et qui serait devenu le premier grand musicien noir. Donc, ils étaient complètement à côté de la plaque. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même raconter une histoire de Dubois, donc, qui tient le journal The Crisis, mais qui était aussi co-créateur ou qui faisait partie du conseil d'administration du label de musique Black Swan. Donc Black Swan, c'était uniquement pour les Noirs et c'était uniquement géré par des Noirs. Et donc, ils avaient auditionné Bessie Smith et Ethel Waters. Mais en fait, donc Ethel Waters, qui avait un style qui imitait beaucoup plus celui des chanteuses blanches de l'époque, et ils avaient trouvé Bessie Smith trop sérieuse, et ils ont préféré garder une Ethel Waters plus sophistiquée, plus douce, mais qui n'avait plus grand-chose de ce qu'on pouvait attendre, de ce que pouvait apporter la culture noire. Dans le livre de Angela Davis, on parle aussi de Billie Holiday. Donc là, très brièvement, puisqu'on n'a plus guère de temps, donc quand elle chante Strange Fruits, là, elle arrive à mettre dans la musique et la culture noire américaine cette notion de résistance et de contestation. Donc pas seulement contre le lynchage en général, qui était très répandu, c'était une politique de terreur, mais aussi contre les gouvernements qui couvraient ces agissements. Alors pour la petite histoire, l'auteur de ces paroles, c'était Lewis Allen, qui était membre du Parti communiste américain. Pour la petite histoire, c'est lui qui a adopté les enfants des époux Rosenberg quand ils ont été exécutés en 1953. Eh bien, je vais laisser la place à l'émission d'après. Donc, pour faire la passation, je vais passer un petit Billie Holiday. Et puis, voilà, donc je rappelle que cette émission a lieu le premier jeudi de chaque mois. Elle s'appelle Livre en Lutte. Livre en Lutte est aussi une librairie 62 avenue Guy Môquet à Vitry, ouvert du mardi au samedi de 10 à 13 et de 15 à 18. Aussi 2 avenue Galilée à Montreuil, ouvert le mardi, le jeudi après-midi de 15 à 18 et le samedi de 15 à 18 et le matin de 10 à 13 heures. N'oubliez pas aussi qu'on a un site pour vendre des bouquins d'occasion. Vous le trouverez en tapant sur un moteur de recherche LENL1109. Ça, c'est le nom de la boutique Rakuten. Il y a plus de 5000 livres, dont 4300 au moins au prix les plus bas du net. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, vous étiez bien sur Radio Libertaire. Prochaine émission Livre en lutte, certainement sur les bandits sociaux. Voilà, à bientôt.
Chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de payer en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on paye en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous